la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Bien d'habitude, je vais au centre de documentation Bob Kahl, mais cette fois-ci, c'est le centre de documentation Bob Kahl qui vient au studio. Quelle chance! Avec Emmanuelle Astoron, qui est la responsable du centre de documentation.
Bonjour.
Bonjour Emmanuella. Et son chercheur en résidence, ça fait bien, hein,
oui, c'est
Laurent
très chic.
Pichot.
Bonjour.
Bonjour. Donc vous êtes en résidence de recherche et de création au centre de documentation donc du Carré d'Art, Musée d'Art Contemporain. C'est la 5e édition. Mais Emmanuella, vous avez élargi un petit peu votre horizon, nos horizons, en demandant à un danseur chorégraphe. Donc c'est original pour un centre de documentation où on vient pour ouvrir et consulter des livres.
Oui. Alors, c'est vrai que depuis 2021 et le début des résidences de recherche et de création, il y a plutôt des artistes visuels qui venaient. Et là, j'ai voulu un petit peu changer, montrer une nouvelle approche, en tout cas, toujours à partir des livres, toujours à partir du fond documentaire. Laurent, je le connais depuis maintenant plusieurs années et je connais son travail. Ça fait longtemps que je voulais l'inviter. Et voilà, j'ai voulu vraiment voir qu'est-ce qu'il allait faire avec le geste, la danse, dans le centre de documentation.
Oui, parce que ce sont des conférences dansées ou conférences performées. Qu'est-ce que vous préférez?
Performance, oui, les deux, c'est un peu la même chose. Performer, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir la parole qui est en jeu, donc ce n'est pas que de la danse.
Et le titre, c'est « Écrire en danseur.danseuse ». Danseuse. Et il y a donc 4 conférences performées qui ont été prévues. Vous avez tout de suite été convaincu, Laurent, vous n'êtes pas fait prier, vous n'avez pas fait la vedette, je ne sais pas.
Non, on ne peut pas refuser ce genre de proposition.
Mais ça vous a fait peur tout de même dans un centre de documentation?
Non, parce que mon rapport, je connais ce centre de documentation depuis son ouverture.
Oui.
Il faut dire que voilà, il y a trentaine d'années, je ne sais plus maintenant, quand il s'est ouvert, j'étais étudiant en histoire de l'art à l'université de Montpellier et ça a été une mine d'or. Enfin, ça a été un centre de documentation qui était unique dans la région, même dans la grande région. On était avant Internet et donc ces questions de se documenter, ben, avoir une telle ressource, c'était juste super. Donc je l'ai connu il y a fort longtemps. Et puis après, j'ai eu un partenariat un peu avec le musée pour faire des projets, en particulier de visites guidées par la danse. On est là au début des années 2000. Et donc voilà, quand Emmanuelle vient vers moi à un moment donné, me propose ça, c'est juste un plaisir aussi que de réinitier, j'ai envie de dire, des projets sur place, à Nîmes où j'habite et où je travaille peu en général.
Alors, il y a eu une première conférence performée le 13 février. Là, j'ai pu y assister. C'était à 18h. Et Emmanuelle, vous avez été rassurée parce que votre inquiétude, c'était va-t-il y avoir du monde?
On est toujours un peu inquiet parce que on sait ce qui va se passer, qu'on sait que ça sera très intéressant pour le public et on a envie justement de tout faire pour favoriser cette rencontre.
70 personnes.
Donc 70
vous
personnes.
Vous avez entassé, non. J'étais témoin, non.
Bon, alors c'est un espace grand, mais en même temps qui peut se remplir très vite. Parce qu'il y a les tables, il y a les chaises. On a laissé quand même le mobilier parce qu'il y avait un atelier prévu par Laurent à la fin pour faire participer le public. Donc voilà, on a été agréablement surpris.
J'ai remarqué, il y avait tous les âges. Hein. Il y avait des étudiants, je pense, en beaux-arts, mais il y avait des personnes plus âgées.
Oui,
et quand vous avez proposé l'atelier, ça a tout de suite dit oui. Hein. Donc c'était très bien. Alors je continue en disant, la deuxième performance, c'était le jeudi 20 mars. Cette fois-ci avec Julie Perrin. Alors, qui est Julie Perrin?
Julie Perrin, elle, c'est une chercheuse en danse. Elle a un poste à l'université, au département danse de l'université de Paris 8 à Saint-Denis. Et elle s'est spécialisée sur plusieurs choses, mais en particulier sur les livres d'artistes chorégraphiques. justement, puisque c'est un peu la grande thématique de ma présence au centre de documentation. Et c'était ma manière aussi d'essayer de répondre à comment, en tant que chorégraphe, j'essaye toujours, moi, de faire des projets par rapport aux endroits où je suis. Mmh. Je ne fais pas de projet en théâtre depuis fort longtemps. Et donc, du coup, la réponse avait été pour moi, ah, comment interroger peut-être... quand les danseurs écrivent, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas. En général, ils parlent peu en plus. Donc,
ils ne font pas que danser. Ils ne font pas que danser, aussi.
Ils pensent. Moi, depuis que je suis jeune danseur, j'ai toujours vu les amis et moi-même avec des carnets de notes, etc. Mm. Donc, on a une pratique d'écriture. Et puis, il y a depuis quelques années, pas mal de chorégraphes et de danseurs qui publient des livres sous des formats très différents, et c'est très agréable, cette diversité-là. Voilà, au bout d'un moment, Julie Perrin, en tant que chercheuse, s'est dit, il faut que je m'intéresse à ces publications.
Oui, c'est ce que j'ai retenu de la première conférence, c'est la diversité. On est vraiment... Et puis la curiosité. Et Emanuela, ça a répondu vraiment, en dehors du monde, ça a répondu à vos souhaits, quoi. Parce que...
Ah oui, oui. Complètement. Le fait de lier une réflexion avec le livre et le geste, enfin, c'est ouais. Très, très intéressant.
Alors, il y avait une petite partie, je dirais, historique, un petit peu, pour comprendre. Et puis après, il y avait l'atelier flipbook. Donc, j'ai appris ce qu'était un flipbook. Enfin, je connaissais, mais je ne connaissais pas le mot.
Oui.
Et vous avez été surpris de cet engouement?
Oui, on peut le consulter. Donc, un flipbook, c'est ces petits livrets qu'on tient dans la main normalement, où c'est presque l'ancêtre du dessin animé, en fait. On fait un petit dessin avec un petit bras qui monte, le dessin d'après, il monte un peu plus. Et puis voilà, quand on l'effeuille en vitesse, ça le met en mouvement, quoi. Donc, comme dans la conférence, la première conférence, j'ai parlé justement d'un chorégraphe qui avait fait une pièce qui s'appelait Flipbook à partir d'un livre de photos d'un chorégraphe américain, j'ai proposé de faire un atelier, de se dire allez, fabriquons ensemble spontanément, en vitesse, un flipbook. Et donc voilà, ça va se transformer en chorégraphie.
Donc on peut le consulter au centre de documentation qui est ouvert du mardi au vendredi de 14 à 18h et le matin sur rendez-vous, parce que je pense, Emmanuel, il y a des chercheurs qui viennent.
Il y a des chercheurs parfois qui viennent toute la journée, donc ils ont besoin de venir le matin. On a des groupes aussi, donc qui viennent pour des séances de groupe, des scolaires, des étudiants d'école d'art. Donc oui.
On veut parler en même temps.
Donc tout ce que fait Laurent au fur et à mesure de sa résidence est visible. Donc il y a le flipbook, il a aussi fait des installations avec des superpositions de justement ces calques faits par le public un peu dans l'espace. Et puis l'installation vidéo qu'il a montrée dès cette première conférence performée, où on voit une danseuse en train de lire... les métamorphoses de Kafka, et on a fait cette projection sur les livres du centre de documentation. Donc cette superposition va très très bien avec le contexte.
Alors ce qui est très net, on va continuer sur les deux autres conférences prévues, mais ce qui est très net, c'est vous aimez ce partage, hein, c'est-à-dire vous n'êtes pas l'artiste dans sa tour d'ivoire sur l'estrade. Vous aimez partager, ça fait partie de votre... C'est même pas la recherche, c'est de votre vie, en fait.
Oui. Quand je me suis retrouvé à faire une pièce vraiment un peu par hasard à l'extérieur d'un théâtre, donc en 2001, ce qui m'a vraiment bouleversé, c'était que d'un seul coup, dans un théâtre, on est le centre du monde. On est vraiment... Et puis c'est un dispositif, vraiment.
Y a les spectateurs,
les spectateurs sont dans le noir, on ne vous voit pas. Nous-mêmes, on est aveuglés parce qu'on a les lumières qui nous éclairent. Et donc, il y a une séparation qui est très forte. Se retrouver dehors, se retrouver dans un lieu qui n'est pas aménagé comme un théâtre, d'un seul coup, nos corps...
Ça change tout.
Ça change tout. La coprésence de nos corps est juste... Et donc, pour moi, ça a été important de pas faire des projets où j'allais reproduire un théâtre à l'extérieur. C'était dommage. Donc, du coup, voilà... Et après aussi, bien sûr, il y a plein de questions de partage, de savoir. Je pense qu'il y a le monde de la recherche en danse. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui savent qu'il y a de la recherche sur la danse. Mais voilà, c'est un art comme les autres. Donc, il y a une histoire de la danse.
Et
donc,
il y a des choses... Ça crée une proximité, je trouve. C'est très bien, quoi. Vous savez, comme des fois, devant une pièce de théâtre ou une musique, on vibre, on ressent. Et là, on ressent aussi ce que vous dites. Alors, vous avez... tout de même un panel d'activités, et vous avez amené deux extraits d'hymnes. Vous fabriquez aussi des chansons. Alors décidément, Emmanuela, l'an prochain, il faudra faire chansons et...
Tout à fait, je ferai venir un compositeur.
Alors, Parlez-nous un petit peu, on change un petit peu de sujet, oui. Mais vous aimez vous découvrir. Et donc, ces chansons fabriquées, c'est là aussi, c'est collectif.
Oui. Alors, ce projet, donc c'est à l'intérieur d'un projet que je mène ces chansons. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de travailler ce que j'appelle des questions en général sociétales. C'est-à-dire, j'ai fait pendant une grosse dizaine d'années un projet sur les monuments aux morts, par exemple, dans le Gard en particulier. Et puis après, ça s'est transformé à faire un projet sur le jumelage entre les villes et les paysages, etc. Et donc là, on a mis ça en place à partir de 2019 à Uzès, au Festival d'Uzès, grâce au Festival d'Uzès. Et dans cette première session, on a travaillé avec les villes jumelées d'Uzès. Donc il y a deux villes jumelées, il y a Paczkow en Pologne et il y a Schriesheim en Allemagne. Donc je suis allé sur place, j'ai fait des repérages et avec un groupe d'habitants de d'Uzès, on a écrit une chanson et un hymne. Alors un hymne, normalement c'est un hymne pour soi-même, c'est un hymne national. Mais là, j'inverse un peu, je poétise la proposition de l'hymne et j'ai proposé qu'on écrive un hymne pour ces villes jumelées. Et donc, on a mis ça, on a fait un atelier d'écriture, on a mis ça en chanson, et puis un compositeur a écrit, donc ça se chante en chœur. Et voilà, ça.
On va écouter celle d'Uzès.
Ouais.
Nous sommes jumelles, mais nous n'avons pas le même âge. Nous sommes jumelles, mais nous n'habitons pas la même vie. Toutes les trois sont historiques. Toutes les trois avons des hautes tours, toutes les trois sommes vignerons, mais j'aime les murs blancs de ton temple,
cet hymne Uzès, on voit à quel point Laurent Pichot, vous êtes multifonctionnel, je veux dire, polyvalent, je ne sais pas comment on dit. Mais Emanuela, c'est ce que vous aimez, parce que je me souviens des autres artistes qui ont été invités. Il y a toujours cette curiosité, je ne trouve pas un autre mot, cette diversité. Ça vous tient à cœur,
ça c'est ce qui me plaît avec les artistes, de toute façon. C'est pour ça que j'ai voulu continuer ces résidences. Ils sont pleins d'idées, ils veulent expérimenter, essayer de nouvelles choses. C'est, le centre de doc, du coup, leur est dédié comme un laboratoire où ils peuvent prolonger une recherche ou une réflexion qu'ils ont eue, mais ils peuvent en avoir des nouvelles. C'est un lieu de découverte aussi à travers aussi les livres, grâce aux livres, parfois, il y a des réflexions qui émergent. Ouais.
Votre fond est important, hein, je veux dire, c'est vous qui l'avez pratiqué depuis l'ouverture, c'est une mine d'or, quoi, comme vous disiez tout à l'heure. Ils ne sont pas trop abîmés, les livres, non? Vous faites attention?
Non, les gens aussi font très attention, essaye d'accorder le maximum de soins.
C'est vrai qu'il n'est peut-être pas assez connu, parce que comme il est au sous-sol, encore que maintenant, il y a la salle de l'atrium avec l'exposition, donc ça vous amène peut-être un peu plus de monde.
Mais du coup, ces rencontres-là, ces résidences-là, les expositions de restitution, les conférences, mais parfois aussi les workshops, parce qu'on fait aussi des ateliers d'art plastique, tous ces moments-là permettent de découvrir le fond documentaire. Il y a des gens qui viennent et qui disent « Ah, mais je ne savais pas qu'il y avait ça, je reviendrai. » Et donc, c'est par le biais de tous ces éléments qui découvrent les livres.
Alors, le 13 février, ils étaient 70, le 20 mars, à peu près pareil. Donc, la troisième, c'est le jeudi 10 avril, et là, c'est avec Catherine Contour.
Oui.
Alors pareil
Catherine,
que Julie Perrin.
Oui, je vous présente Catherine Contour. Catherine Contour est une chorégraphe, mais qui, un peu comme moi, ou moi comme elle plutôt, a développé justement ses pratiques chorégraphiques à un sens beaucoup plus large. Et donc moi, depuis que je la connais, j'ai dansé aussi avec elle. Je l'ai vue fabriquer aussi des petits objets, des fanzines, etc. Donc j'avais envie d'inviter un ou une artiste grâce à ce principe d'invitation aussi qu'Emmanuela me proposait. Et du coup, voilà, Catherine, elle est très attachée à des pratiques, en particulier avec le Japon. Elle fait des pratiques de cérémonie du thé. Donc, elle a aussi tout un rapport à l'environnement, à comment on accueille les personnes. Et donc, je savais aussi qu'elle pouvait s'amuser, entre guillemets, et jouer avec le lieu et le site.
C'est très humain, tout ça. Hein,
oui.
C'est,
c'est comme on disait tout à l'heure, en fait, quand la frontière entre le danseur, la danseuse et le public est brisée, c'est des relations qui se créent. Alors bien sûr, il y a des protocoles qui sont un peu autres. C'est pas, il y a de l'informel, il y a de la convivialité, mais
il y a des surprises.
Il y a toujours des surprises. Et puis, c'est vrai que les pratiques artistiques, elles sont toujours un peu réflexives, j'ai envie de dire. Le spectateur, il se dit, oula, qu'est-ce qui m'arrive? Où c'est que je suis? Comment je vais me placer? Qu'est-ce que je fais de mon corps? Etc. Et ça m'intéresse. C'est un matériau chorégraphique énorme. De dire qu'est-ce que je permets ou pas aux spectateurs, spectatrices de faire de leur corps au moment où ils voient la chose, où ils entendent des choses.
Et puis il y a toujours ce côté restitution. Hein. Donc vous l'avez dit, Manuela, il y a les flipbooks, mais il y aura d'autres choses. Les monuments aux morts dont vous avez parlé, moi j'ai été assez surprise sur ce calendrier.
À effeuiller.
Donc il y a toujours ce lien, le papier.
Ah oui.
Et il y aura le samedi 17 mai, donc une performance participative, c'est la nuit des musées. Donc là, il y aura du monde, ça sera dans tout le musée, là, ça sera plus dans le centre.
Ce sera dans le centre de documentation et aussi dans le musée, avec Laurent et aussi avec les guides conférencières du musée. On va essayer de réfléchir à un dispositif pour faire participer le public.
C'est compliqué, hein. En même temps, il y a ces escaliers, vous parliez du théâtre, mais là, c'est un théâtre, je dirais, accessible de tous côtés.
C'est une architecture incroyable.
Ouais.
Enfin, en 94, avec la chorégraphe qui s'appelait Nicole Canonge, qui est dirigée, qui avait créé la compagnie X Sud, que maintenant je dirige, on avait fait une grande performance déjà dans l'architecture du musée.
Non, je n'étais pas à Nîmes en 14.
Ouais. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est propice, je pense, une majesté, et en même temps, ses transparences sont très troublantes. On s'était beaucoup amusé justement à placer de la danse dans des endroits un peu improbables, ou alors très monumentalement dans les escaliers. C'est un support imaginaire qui est très fort, cette architecture-là est très forte.
Mais cette nuit des musées, il y a beaucoup de monde, hein, donc il faut vous l'animer toute la soirée ou ça doit être...
Oui, on va... dans un partenariat précédent, là, 2003-2004, on avait déjà fait une grande performance pendant la nuit des musées.
Bon, ça a l'air d'être banal pour vous. Non, rien n'est banal.
Rien n'est banal parce que tout est à chaque fois nouveau. Et tout se réinvente.
C'est ce qui est super.
Et puis là, surtout, c'est vraiment de faire le lien et le pont entre le centre de documentation et les œuvres exposées dans les collections permanentes. C'est là où on va vraiment s'amuser à créer des liens. Donc voilà, on est en train un peu de réfléchir. Je pense que la notion de jumelage va revenir. C'est quelque chose qui...
Eh bien, merci Edouard, pour nous emmener dans le deuxième hymne. C'est magnifique, mon travail. Merci Laurent. Le deuxième hymne. Là, c'est un hymne général aux villes jumelées.
Alors là, c'est un hymne un peu différent. C'était à partir d'une phrase, j'avais lu une phrase d'un livre de Georges Perec où il parle du centre géographique de la France métropolitaine. Donc, il y a une phrase comme ça dans un de ses livres, dans Espèce d'espace. Et comme on avait une équipe internationale de danseurs pour ce projet, j'ai proposé que chacun fasse une chanson à partir du centre de son pays. Et donc voilà, donc vous allez écouter, là, il y a plusieurs versions. Il y a la version française qui est le texte de Perec. Il y a une version suisse. Où est le centre de la Suisse? C'est très beau l'histoire, vous allez l'entendre. Il y a aussi la version américaine, il y a une version israélienne, etc. Parce que voilà, ça faisait partie de l'équipe. Donc chacun chante dans sa langue la chanson du centre de son pays.
Reste à savoir s'il y a polémique. Est-ce qu'il n'y a qu'un centre? Chacun.
Il y a toujours polémique et c'est en ce sens-là que c'est poétique et politique.
J'aime savoir que sur une paroi rocheuse, à l'ouest de Schlegli, comme une de Sarcelles, canton de Val, se trouve l'exact centre de la Suisse. Mais que le monument a été placé sur un proche alpage, 500 mètres plus loin.
J'aime savoir qu'à mi-distance, des hameaux de Frappon et de La Prelle, commune de Védin, département du Cher, se trouve une plaque signalant que l'on est exactement au centre de la France métropolitaine.
Anni rotzella da acebetzomet mes mia ke esrim kilometer mi Be'er-Sheva yesh tachanat delek kenyon ובאס יש צוואי בין שלט שמצביע על מסמיע כמרכז של ישראל המוכרזת. I like knowing that in Kansas, 12 miles south of the Nebraska border, there is a park with a picnic table and a chapel, and the marker for the exact center of the contiguous United States in a disappearing town called Lebanon.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous continuons donc notre rencontre avec Emmanuel Astoron du Centre de Documentation Bob Carl et son invité Laurent Pichot, donc écrire en danseur.org. Danseuse, je ne sais pas comment prononcer.
Danseuse. Danseuse.
Danseuse.
Ah oui, mais il y en a qui le prononcent comme ça maintenant.
Danseuse.
Oui. Danseuse.
C'est exprès, non?
Non, mais c'est ce qu'on appelle l'écriture inclusive. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que dans un même mot, on essaie de mettre le féminin et le masculin. Mm-hmm. Des fois, ça crée des mots étranges. Des fois, on met ce point entre les deux. C'est vrai que de dire danseuse, ça met le sourire, quoi.
Ça peut être, j'ai dit dangereuse, mais ça peut être aussi doucereuse.
Hein, oui.
Voilà. Je me posais la question, Laurent, avec toutes ces activités, tout ça, vous avez le temps de travailler à votre thèse?
Nous y voilà.
Question pernicieuse.
Je soutiens ma thèse le 5 et 6 juin, donc elle est finie.
Donc elle est finie, super. Et vous êtes contente, c'est un gros, très gros travail.
C'est un long travail, une thèse, mais c'est un projet artistique pour moi.
Et c'était, dites-nous le titre.
Ça s'appelle. Alors les titres de thèse, ils sont toujours un peu rébarbatifs parce que c'est un peu explicatif. Alors moi, en ce moment, c'est, enfin en tout cas, ça s'est posé comme le bureau, le studio, la page, faire de l'in situ dans les archives d'une autre artiste. Laurent Pichot, Deborah Hay. Donc c'est une thèse en danse qui s'appuie sur le lien que j'ai construit avec cette chorégraphe américaine, qui est une figure depuis l'avant-garde du début des années 60 jusqu'à aujourd'hui. On est amis, mais voilà, j'ai voulu faire une thèse parce que j'ai eu accès à ses archives, donc d'autres formes de papier, d'autres formes de livres, et qui était une autre mine d'or aussi pour moi. Et donc voilà, j'ai voulu faire au sein d'un format qu'on appelle une thèse création. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une thèse académique, c'est une thèse aussi qui est expérimentale, qui est aussi menée par des artistes la plupart du temps. Donc voilà, c'est un projet d'écriture aussi, mais qui j'ai inventé plein d'autres choses
avec Je vous fais confiance, archives, parce que là, on n'aura pas le temps, mais vous nous avez montré aussi des guides, vous nous avez montré des foulards, des topo-guides. Donc venez au centre de documentation pour voir tout cela. Puis on peut toucher, c'est ça qui est
important. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
C'est ce contact qui est important. Ah oui. Donc ça ne m'étonne pas, Emmanuela, que vous avez pensé à Laurent pour... cette nouveauté, en fait, c'est... Vous aviez un peu d'appréhension, oui, oui. Tout
ça ? Non, pas... Non.
Ça roule.
Aucune appréhension du tout. Non, plus de la curiosité, parce que, voilà, je me demandais comment il allait... Qu'est-ce qu'il allait développer, tout ça, mais...
Beaucoup de dialogue entre vous,
ah,
avant...
Ah oui, toujours, à chaque résidence, ouais. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que, voilà, il s'agit d'invitation et pas d'appel à candidature. Voilà.
Et ça se tient de... février, enfin vous êtes en résidence de février à octobre, avec cette restitution dont la date n'est pas encore fixée.
Non, ce sera l'automne. Automne, voilà, automne 2025.
Ça y est, vous avez plein d'idées ? Pas encore ? Vous attendez les quatre conférences ?
C'est le principe d'une résidence, en fait. C'est-à-dire que c'est un temps d'exploration, un temps de maturation. On teste des choses. Et c'est vrai que quand j'ai proposé à Emmanuela que ça soit beaucoup de temps public, c'était moins ce qui s'était passé avant, parce que c'était les plasticiens, ils étaient plutôt les artistes visuels. Ils venaient, ils élaboraient un projet qui était in fine proposé à l'automne. Mais là, pour moi, mon vocabulaire, c'est
Besoin d'expérimenter.
J'ai besoin d'expérimenter, j'ai besoin de rencontrer les spectateurs, j'ai besoin de comprendre comment ces corps évoluent dans cet espace. Puis j'ai besoin de rencontrer aussi Emmanuela, d'une certaine manière, et parce que pour moi... c'est un dialogue, c'est même de la co-création. Enfin, les idées, moi, elles viennent parce que j'entends aussi ceux qui connaissent mieux le lieu que moi. Moi, je suis de passage, d'une certaine manière. Et donc, c'est ça qui me fait travailler aussi avec des habitants, avec des villageois, dans le plaisir de la communication, des échanges. Et avec Emmanuela, voilà, c'est vrai qu'elle est... Elle est très disponible, je veux dire,
parce que les artistes, vous ne voyez pas, mais elle rougit.
Les artistes, on peut avoir des idées très spontanées et on a besoin de le tester tout de suite. Et
il faut structurer un petit peu.
Oui, mais on structure en faisant aussi. Donc il faut passer à l'acte. Et par exemple, pour la première conférence, moi-même j'étais très surpris en fait de dire et si on bougeait un peu les meubles, qu'est-ce que ça.
On a tout bougé.
et on a tout remis après. Et c'est voilà,
c'est obligatoire.
Ça s'appelle faire bouger ou faire danser le lieu aussi.
Voilà. C'est ça.
Eh bien, merci à tous les deux d'être venus. C'est pour ça que vous attendiez qu'il y ait déjà des conférences qui soient passées pour avoir un peu ce ressenti. Et je rappelle, donc, il y a encore deux dates, le 10 avril et le 17 mai, la nuit des musées. Pas de réservation.
Non.
Et la restitution à l'automne, où ça sera grandiose.
Voilà, et pour en savoir plus sur notre site, où les gens peuvent venir aussi au centre de documentation. Et certaines éditions de Laurent sont en vente à la librairie du musée.
D'accord. Eh bien, merci à tous les deux et puis bonne performance.
Merci beaucoup.
Merci.